Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RTL en ce lundi après ce week-end pendant lequel votre radio préférée vous accompagne. La semaine s'annonce riche et variée, demain nous nous intéresserons aux douloureux moments et bien souvent dévastateurs de l'héritage. Mercredi, ce sera la relation médecin-patient, jeudi on parlera de l'amour, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de redonner une chance à un amour passé? Et puis vendredi, bon sang de bonsoir, Bigré, Gerny, Coton, on décryptera la jouissance du juron. Mais pour l'heure et jusqu'à 15h30 sur RTL. L'enfer, c'est les autres, écrivait Sartre. Mais jusqu'à quel point? Que ce soit au sein de notre famille, de nos amis, de notre milieu professionnel, nous côtoyons tous ou presque certaines personnalités borderline, anxieuses, obsessionnelles, parano, passives-agressives ou encore narcissiques, avec lesquelles il n'est pas toujours simple d'interagir. Alors comment composer avec les personnalités dites difficiles? Des relations positives et apaisées sont-elles possibles? Pouvons-nous tous être compliqués à vivre pour les autres? On en parle aujourd'hui avec nos invités qui sont tous les deux auteurs d'un ouvrage, co-auteurs d'un ouvrage qui pourrait vous aider. Il est lourd parce qu'il y en a des mots dans notre société. Christophe André, François Lelor, bonjour.
Bonjour.
Soyez les bienvenus, merci d'être avec nous. Christophe André, vous êtes psychiatre et psychothérapeute, spécialiste des troubles émotionnels. François Lelor, vous êtes psychiatre et psychothérapeute. Et les nouvelles personnalités difficiles, comment les comprendre, les accepter et les gérer? C'est vrai qu'il y a plusieurs étapes. C'est aux éditions Odile Jacob. Alors, comment est-ce qu'on pourrait, Christophe André, définir ce qu'est une personnalité difficile? Est-ce qu'il y a un diagnostic pour ce genre de choses?
Oui, il y a des diagnostics. Une personnalité, c'est un ensemble de traits, de manières de penser, de se comporter, qui est stable, relativement stable en tout cas, et qui est prévisible. Quand on connaît la personnalité de quelqu'un, on sait un petit peu à l'avance comment il va réagir ou comment elle va réagir dans telle ou telle situation. Et ce qu'on appelle les personnalités difficiles, eh bien, c'est les personnalités que nous trouvons difficiles, qui nous posent des problèmes, qui nous contrarient, qui nous contredisent, qui créent du stress, de la souffrance, de l'inquiétude en nous, qui nous rendent la vie difficile, finalement, pour faire simple.
Donc, ça veut dire qu'on est tous, quelque part, François Lelor, des personnalités difficiles, parce qu'il y a quand même une classification dans votre ouvrage. Oui. On se cherche, d'ailleurs, on se dit, tiens, est-ce que je suis là, on va y revenir.
Voilà. Ben, on peut tous, dans une situation de conflit, en général, on trouve que l'autre a une personnalité difficile.
Toujours.
Mais toujours, dans les divorces, n'en parlons pas. L'autre conjoint est toujours un pervers narcissique, si vous voulez.
Mais c'est vrai.
En réalité, pour dire que c'est vraiment une personnalité difficile, il y a quand même deux critères. C'est d'abord de vérifier qu'il est difficile ou elle est difficile avec tout le monde, pas qu'avec vous. Et aussi que ça dure depuis longtemps. C'est-à-dire que cette personnalité a toujours été un peu comme ça, à l'adolescence, il y a quelques années. Et dans ce que disait Christophe, exactement, elle nous pose des problèmes et elle se pose aussi des problèmes. Parce qu'on dirait qu'il y a des personnalités difficiles qui, j'allais dire, font surtout souffrir les autres. Par exemple, les personnalités narcissiques ou paranoïaques. Et puis des personnalités qui font surtout souffrir elles-mêmes. Par exemple, les anxieux, les dépendants. Voilà, ceux-là, ils nous gênent moins, mais eux, ils se font souffrir.
Donc, il y a une classification.
Oui.
Voilà,
bien sûr,
hein, Christophe André.
Alors, la classification sur laquelle nous nous sommes basés pour le livre, c'est une classification qui, au départ, est une classification psychiatrique. Mmh. Et donc, ça veut dire que ces personnalités difficiles peuvent parfois être carrément ce qu'on appelle des personnalités pathologiques, qui posent des gros problèmes et qu'il vaudrait mieux soigner, idéalement. Même si, malheureusement, lorsqu'on a une personnalité difficile, c'est pas lorsqu'on a des troubles psychologiques, on a l'impression que c'est un peu normal, quoi, que notre vision du monde est la bonne, et on va rarement demander de l'aide, au début en tout cas.
Voilà, il y a peu de remise en question chez la personnalité difficile, François Lelor.
Oui, en général, non, les gens, par exemple une personnalité narcissique, elle pense réellement qu'elle est supérieure, qu'elle mérite plus que les autres, que les autres doivent la servir, et elle est très contrariée si on n'est pas admiratif ou si on n'est pas à son service, donc effectivement il n'y a pas de remise en question, sauf parfois à la suite d'un gros échec. Donc, en tant que psy, on voit arriver ces personnalités, en particulier ainsi, quand ils ont subi effectivement un gros échec qui les remet un peu en question.
D'accord, et là c'est l'occasion effectivement peut-être de leur permettre de s'interroger sur leur propre comportement. Alors qu'une personnalité, alors je ne sais pas non difficile, une personnalité facile, en fait, quelque part se construit sur une forme de souplesse, Christophe André.
Ça,
moi j'ai l'impression qu'il y a de la rigidité dans les personnalités difficiles.
Absolument, c'est un des critères majeurs sans doute. C'est-à-dire, effectivement, comme le disait François, on a tous des traits de personnalité difficile. Ça peut nous arriver à tous d'être parfois un petit peu jaloux, un petit peu de prendre la parole, de couper la parole aux autres, un petit peu agressif, etc. La personnalité difficile, ce qu'il a défini, c'est la stabilité et c'est la rigidité. C'est-à-dire, il y a des traits de personnalité. Vous pouvez être, par exemple, un petit peu méfiant si vous achetez une voiture d'occasion ou si vous négociez des choses, des objets qui ont de la valeur à l'étranger. Si vous devez mettre beaucoup d'argent, vous devez être méfiant par rapport au vendeur. Mais si vous êtes méfiant aussi à une soirée où vous êtes invité avec des amis sous prétexte que vous ne connaissez pas les gens qu'on vous présente, là, c'est un trait de personnalité rigide. Il n'est plus adaptatif, il n'est plus flexible. Et du coup, vous rentrez dans la personnalité pathologique.
Bon, alors, on va se retrouver dans un instant parce que Clément va nous parler de sa fiancée. Clément, il a 27 ans et je pense qu'il pourrait la décrire. Bah tiens, il est en ligne avec nous, on va juste lui demander ça. Vous pourriez la décrire comment, Clément, votre amoureuse ?
Paranoïaque.
Bon, alors justement, on va voir si effectivement la parano fait partie des personnalités difficiles. En tout cas, elle apparaît, je vous rassure, dans l'ouvrage de nos invités. On est ensemble jusqu'à 15h30 et vous allez nous expliquer comment ça se traduit justement, Clément, et comment vous agissez avec elle. À tout de suite.
Savi Flamand sur RTL. Savi Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
On les appelle les personnalités difficiles. L'ouvrage de François Lelor et de Christophe André aux éditions Odile Jacob s'intitule « Les nouvelles personnalités difficiles ». Est-ce à dire quand même que François Lelor, notre société, un peu chelou quand même en ce moment, qui traverse des moments difficiles, fait le lit de nouveaux mots et de nouveaux traits de caractère compliqués ?
Peut-être pas des nouveaux, mais en tout cas, elle les encourage et elle prospère plus. On revient encore au narcissique ou même au psychopathe. Ben oui, il prospère plus dans notre société, il se révèle plus.
Et ça va être joyeux tout ça. Bon, allez, on est là pour parler avec Clément. Clément, vous avez 27 ans, vous vivez à Paris et vous nous l'avez écrit, ma copine est parano. Alors, on a un message de Sonia et on va voir si effectivement vous vous y retrouvez. Je travaille avec un collègue assez parano, il déteste notre hiérarchie, il voit le mal partout, il se pose souvent en vie. Victime sans jamais aucune remise en question personnelle, c'est assez compliqué au quotidien et ça a des conséquences sur l'ambiance au bureau. Au début, j'essayais de lui faire voir d'autres possibilités que les conclusions qu'il tirait, mais il le prenait mal, m'accusant d'être du côté des puissants. J'avoue ne pas trop savoir comment réagir, il me reproche aussi mes silences. Ça fait beaucoup quand même. Clément, est-ce que vous pensez qu'une collègue de votre fiancée pourrait parler d'elle de la sorte ?
Je pense qu'elle pourrait parler d'elle, quoique je ne sais pas si elles sont vraiment au courant, en fait, qu'elles pensent ça d'elle. Mais tout cas, c'est vrai que parfois, elle me parle de ses collègues de bureau. Et par exemple, une petite remarque, ça peut être un « ça va, toi, aujourd'hui » qui va être interprété comme « elle sait que ça ne va pas bien, elle essaye d'appuyer dessus, elle essaye de m'enfoncer, quoi. »
Ok, d'accord. Est-ce qu'elle a un prénom, cette jeune femme ? Est-ce qu'on peut l'appeler par son prénom ?
Oui, bien sûr, elle s'appelle Aurélie.
D'accord, Aurélie. Aurélie, ça se traduit comment, justement, cette paranoïa ? Vous l'avez, c'est vous qui l'avez diagnostiquée ainsi, ou est-ce qu'effectivement, elle a consulté et un jour, on lui a dit qu'elle l'était ?
Alors, je pense que c'est moi qui pose le diagnostic, peut-être un peu sévèrement, mais je le vois avec comment elle agit avec moi au quotidien.
D'accord. Vous vous êtes rendu compte de ça il y a combien de temps ?
Alors ça fait 8 ans qu'on est ensemble, mais ça fait 5 ans que moi je suis à Paris et qu'elle malheureusement est dans le sud de la France. Et je pense qu'effectivement c'est à partir de ce moment-là où c'est devenu un peu plus présent. Ou en tout cas c'est devenu plus récurrent. Et ce que je trouvais peut-être un peu mignon, que je prenais pour de la jalousie, peut-être un trop plein d'affection, a commencé à peser en fait avec la distance.
Alors ça se traduit comment ?
Ça se traduit la moindre sortie, la moindre soirée que je fais à Paris. Je suis obligé de lui dire où je vais, avec qui, comment, quand je rentre. Pas faire le CV des personnes avec qui je suis, mais oui, c'est mieux pour elle. Et puis même moi, j'ai senti que je m'auto-censurais un petit peu, dans le sens où maintenant, même sans qu'elle me le demande, je sais que je suis obligé de le faire. Parce que de toute façon, je vais avoir droit à ses demandes après.
D'accord, donc vous précédez finalement ses inquiétudes, quoi. Donc vous vous sentez victime de son système, je dirais, quelque part. En fait, vous êtes coopératif, quoi, mais c'est ça.
Oui, coopératif, victime, je ne sais pas, mais non, c'est vrai qu'il y a des jours où on se porte mieux que d'autres.
Bah oui, mais ça, j'imagine. Est-ce qu'elle applique ses inquiétudes, ce caractère très anxieux, uniquement au domaine amoureux, donc à vous, ou est-ce que ça s'applique aussi dans plein d'autres domaines ?
Alors ça s'applique aussi avec au bureau,
donc,
quand elle parle avec ses collègues, où elle pense que tout le monde est dans un esprit de compétition, tout le monde essaye de lui prendre sa place, et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que parfois, je crois que c'était le message de Sonia, parfois quand j'essaye de lui dire « non mais tu sais, peut-être que vraiment t'as juste demandé si ça allait », tout de suite c'est « mais toi de toute façon t'es tout le temps d'accord avec les autres, jamais avec moi, vous êtes ensemble », voilà.
Donc le monde est un petit peu contre elle, quoi.
Le monde est un petit peu contre elle, et même moi, j'ai l'impression de faire, alors qu'on est très proches et qu'on s'aime beaucoup, j'ai l'impression de faire partie du monde des autres à quelques occasions, quoi.
D'accord. Est-ce qu'elle a de l'entourage proche, elle a des amis, ou finalement, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est isolé avec le temps ?
Non, elle a des amis proches, mais qui comme moi, je pense, en tout cas j'ai l'impression, sont aussi dans cette autocensure, c'est-à-dire qu'ils savent qu'elle est comme ça, étant proche d'elle, ils le savent, ils tiennent beaucoup à elle tout de même, mais du coup, ils font attention, ils font des concessions, ils vont pas être trop incisifs dans les blagues avec elle, ils vont quand même lui donner raison la plupart du temps, même si, objectivement,
elle a tort.
Elle a tort. Donc voilà, elle a des amis, elle est entourée, mais je pense que c'est au prix de concessions quand même.
Oui, c'est ça, donc c'est lourd.
C'est lourd.
Ça vous arrive de le lui dire ? On parlait de la rigidité, justement, il y a un instant, des personnalités difficiles. Ça vous arrive de poser, à un moment donné, le sujet sur la table et dire, écoute, là, il faut vraiment qu'on se parle, Aurélie, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui commence à gâcher nos relations.
Oui, j'essaye de lui en parler. Alors, j'essaye de lui en parler avec énormément de tact, du coup. Et souvent, elle l'entend. C'est ça qui est un petit peu difficile, mais c'est pour ça que je l'aime encore, parce que je pense que sinon, c'est très difficile. À supporter, c'est qu'elle l'entend, je sens qu'elle fait des efforts sur quelques semaines, sur parfois un mois entier, mais ça finit toujours par revenir, en fait.
Ouais, c'est super intéressant ce que vous nous dites. On va se retrouver dans un instant, hein, parce que vraiment, je prends des notes en même temps que je vous parle. Je l'aime encore, mais c'est si difficile à supporter. On sent que c'est une nature profonde. Hein. On va y revenir avec nos invités. François Lelor, ça y est, il est derrière son micro, il est prêt à rebondir. Ce sera dans un instant sur RTL. À tout de suite.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Eh bien, dites donc, ça se lâche hein, sur les messages que l'on reçoit pour nous parler justement des personnalités difficiles. Christophe André et François Lelor, tous les deux psychiatres et psychothérapeutes, sont vos invités. Et Clément, vous nous parlez d'Aurélie. Elle est profondément aimable, Aurélie. On l'entend à travers vos mots. Vous l'aimez, mais ça reste quand même super difficile. Cette jeune femme vous écoute. Hein, c'est votre compagne. Quand vous lui dites qu'elle est parano, vous prenez toutes les précautions du monde pour essayer de lui expliquer qu'elle a un rapport au monde qui n'est pas forcément tout à fait juste et équilibré. Mais néanmoins, elle fait des efforts et on sent qu'elle retombe dans ce travers hein, de la paranoïa telle que vous la décrivez, Clément. Parce que c'est plus fort qu'elle. C'est sa nature. Et on sent chez vous aussi à quel point c'est lourd à porter. Alors, on va demander à François Lelor. Déjà, vous vouliez poser une question à Clément, François.
Oui. La question que j'aimerais poser à Clément, c'est est-ce que Aurélie, parfois, a des grands moments de doute sur elle-même, ou est-ce qu'elle est, comme on dit, assez droit dans ses bottes ?
Alors, je pense qu'elle a des moments de doute qui ne sont pas très gros, mais c'est ça qui est étrange aussi, c'est que pourtant, elle a une grande confiance en elle, en fait. Mais du coup, j'ai l'impression qu'elle est toujours dans cette adversité-là, elle a du mal à en sortir.
Mais vous dites qu'avant la séparation, enfin avant que vous éloigniez, finalement, sa personnalité était beaucoup plus paisible, enfin qu'elle n'était pas si jalouse et qu'elle, d'un certain point de vue, elle était moins parano qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Oui, je pense que c'est aussi parce qu'elle a une forme de contrôle quand je suis proche d'elle, qu'elle n'a plus depuis que je me suis installé à Paris.
Alors, oui, là, vous opinez du chef, François Lelor. Allons-y pour Aurélie.
Non, mais l'idée de contrôle, oui. L'idée de contrôle, effectivement, est plutôt en faveur de traits de personnalité un peu paranoïaque, puisque le paranoïaque, disons, comme il vit un peu tout comme une menace, il est très soucieux de tout contrôler. Mmh. Voilà. Mais ça l'empêche pas, par moments, d'être sympathique, comme l'est Aurélie,
sûr.
D'être aimable.
Touchant. Mmh.
Mais, évidemment, il rend la vie difficile aux autres, et aussi difficile à elle-même, parce que ça veut dire qu'elle est toujours sur le qui-vive, en fait.
Mmh. Oui, parce qu'elle est en souffrance, vous le sentez, Clément ? Parce qu'elle se fait un mouron permanent, quoi.
C'est exactement ça, et je pense que la chose qui est la plus lourde pour moi, c'est pas tant la situation qu'elle m'impose, c'est que je sais que pour elle, c'est difficile. C'est ça qui est le plus dur quand on est dans la situation de conjoint, de victime, entre guillemets, de ce caractère.
Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe André ?
Il y a un point qui est vraiment important, parce que c'est vrai que quand on parle des personnalités difficiles, on a tendance à les juger, c'est la souffrance. Clément rappelle qu'Aurélie souffre, et c'est vrai que les personnalités difficiles sont des personnes qui souffrent. Donc c'est une raison pour faire ces efforts auxquels on encourage dans le livre, comprendre, essayer voilà, de faire avec. Mais par contre, malheureusement, j'allais dire, ça décrit qu'il va y avoir du travail tout de même, Aurélie semble présenter les deux grands traits, les deux grandes familles de traits caractéristiques des personnalités paranoïaques. D'une part, le côté très interprétatif, on lui parle, elle l'interprète d'une certaine façon, on ne lui dit rien, elle l'interprète aussi d'une certaine façon. Je vous dis bonjour, mais la façon de dire bonjour va être interprétée. Je vous dis pas bonjour, imaginez combien ça va être interprété. Donc, ce côté très méfiant, très interprétatif. Et puis, la rigidité du jugement. C'est très difficile de convaincre une personnalité paranoïaque parce que elle n'a pas cette flexibilité. Elle a du mal à se remettre en question. Elle a du mal à renoncer à son système de croyances, les amis contre les ennemis, les gentils contre les méchants. Et donc, c'est très semble en place chez Aurélie.
Alors, si on se dit qu'effectivement, Clément, Aurélie, vous l'avez bien compris, est une personne qui souffre d'une forme de paranoïa, Clément, j'imagine que vous en souffrez vous aussi. Et on sent que vous passez votre temps à marcher sur des œufs. C'est vrai que c'est dans votre ouvrage, François Lelore et Christophe André, quelque part, vous nous invitez, et c'est un peu surprenant, je ne vous le cache pas, parce qu'on naturellement, face à ce genre de personnalité, on a envie de les aider à être différents. Vous nous expliquez que c'est une nature, que c'est une souffrance, et qu'il faut quelque part, effectivement, accepter et les accompagner. Ah, dites donc, enfin, Clément, ce n'est pas pour vous que je dis ça, mais ça n'est pas facile, François Lelore, aussi, à ce type de personnalité.
Bien sûr, ça n'est pas facile, et d'ailleurs, en général, quand on peut, là, beaucoup de gens, on évite ces personnalités.
Parce c'est ce que certains nous disent, un conseil
trop...
fuyez.
Elles
c'est
sont
pas
trop fatigantes, mais parfois, c'est soit son patron, et pour différentes raisons, ou un collègue, on ne peut pas changer de travail. Et parfois, on est amoureux ou amoureuse, donc on n'arrive pas à partir. Donc c'est là, effectivement, qu'il faut déployer ce que fait notre invité, là, puisque c'est à la fois la comprendre, percevoir sa souffrance, et puis s'organiser pour ne pas déclencher, disons, sa méfiance. Et sa colère. Donc en fait, alors après il y a une question d'équilibre, c'est-à-dire qu'on peut pas non plus totalement laisser contrôler.
Voilà, c'est donc ça. C'est pour ça que je parlais de coopération, mais néanmoins, Clément, est-ce que ça vous gâche la vie, pardon de vous le dire comme ça, est-ce que ça vous atteint, est-ce que vous sentez que vous êtes moins vous-même, moins heureux, moins épanoui, parce que ça peut déteindre aussi ce genre de comportement.
Oui.
Clément.
Non, je pense que ce sera un petit peu ma limite quelque part pour l'instant. Pour l'instant, tout va bien.
Non, mais vous sentez libre, quoi, d'être vous-même. Parce que parfois, face à ce genre de personnalité, on a du mal à être soi-même.
En fait, j'ai pas peur aussi de temps en temps de. Voilà, je sais qu'elle a ce côté un peu parano. J'ai pas peur de subir, entre guillemets, une crise. Donc, j'essaye de ne pas me censurer. Je sais à quoi je peux m'exposer, mais je vais pas me censurer quand même. Je pense que le jour où je me censurerai totalement, je réfléchirai quand même sérieusement. Est-ce que c'est vrai?
Oui, je comprends. Christophe André.
Alors, peut-être tout de même, il ne faut pas que le seul message, ça soit accepté, fait avec.
Non, on a une heure pour en parler, ne vous inquiétez pas.
Il y a tout de même aussi des manières d'interagir avec les personnalités difficiles, surtout quand il y a de l'amour. C'est-à-dire, le point fort de cette relation entre Aurélie et Clément, c'est que les deux s'aiment, sont attachés l'un à l'autre. Donc, les conseils qu'on peut donner de manière très générale, c'est d'abord que c'est très difficile de communiquer avec ces personnes quand elles sont en crise, anxieuses, de jalousie, de colère, etc. Donc, il vaut mieux attendre les moments où tout est un petit peu retombé, mais quand même de mettre à plat, de dire, tu sais, quand il se passe telle chose, moi, je me sens dans tel état, et ça serait vraiment bien qu'on puisse en parler tous les deux, sans juger, sans accuser, mais en décrivant ce qui se passe.
Voilà, donc on est bien d'accord qu'il faut les accompagner, leur parler, ne pas se laisser complètement bouffer et dévorer. Ça n'est pas l'objet de votre livre, François Lelore, mais c'est toute la difficulté face à ce genre de personnalité.
Voilà, et comme disait Christophe, il faut éviter de le faire pendant les moments de crise, et on dit souvent que les personnalités difficiles,
seule l'émotion gagne, quoi.
Voilà, il faut battre le fer quand il est froid. C'est ça, plutôt la règle.
Vous avez compris, Clément, hein? Il faut battre le fer quand il est froid, hein? Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir ouvert le bal, si je puis dire, aujourd'hui sur l'antenne d'RTL. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Dans un instant, c'est Pierre qui interviendra. Et lui, il va nous dire qu'il ne faut pas oublier que les personnes compliquées, elles ont souvent une fêlure, évidemment. Et ça, on est tous d'accord. Ce sera dans un instant avec vous, Pierre. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 en compagnie de nos invités Christophe André et François Lelore. Dans votre livre Les nouvelles personnalités difficiles que l'on retrouve aux éditions Odile Jacob, on retrouve effectivement une sorte de classification de ce qu'on appelle les personnalités difficiles. On vient de parler de la paranoïa il y a un instant avec Clément qui nous parlait d'Aurélie. On retrouve également des personnes borderline, des personnes psychopathes, des personnes narcissiques, des personnes anxieuses, des personnes parano, on l'a compris, histrioniques, des personnes obsessionnelles, schizoïdes, dit donc, et puis les comportements de type A. Ça en fait hein, du monde un peu compliqué à gérer dans notre société.
Pittoresque et compliquée, qui rend la vie passionnante et parfois difficile.
On se cherche, hein, François Lelore, hein, dans ce livre, c'est assez amusant. Je ne vous cache pas que je me suis retrouvée parfois dans certains petits traits de caractère, mais un peu partout.
Donc, mais nous aussi, voilà.
Donc ça, c'est... donc ça, c'est donc être humain. Que d'être quelque part un petit peu de tout ça. La problématique, on est une personnalité difficile lorsque l'on est vraiment, d'une façon ancrée, l'un de ces traits de caractère, je dirais. C'est ça, François
Lelore ?
Voilà,
c'est, comme dit Christophe, c'est avec une certaine rigidité, quoi, quand on n'arrive plus à s'adapter aux situations.
Des messages nous sont arrivés avant d'accueillir Pierre. Nathan nous écrit, alors décidément, les hommes parlent des femmes. Hein, mais enfin bon, d'ailleurs, il n'y a pas de différence, François Lelore, entre les hommes et les femmes.
C'est ça. Il y a plus de personnalités anxieuses chez les femmes, par exemple, et plus de paranoïa que chez les hommes, vous voyez ?
D'accord, je vois. Justement, Nathan nous parle de sa copine, très princesse, limite capricieuse. Je dois me plier en quatre pour elle, c'est normal, mais l'inverse l'est beaucoup moins. Le manque de réciprocité est un gros problème pour moi. Dès que j'essaie d'en parler, c'est la crise. Je tiens à elle et je ne voudrais pas que ça empire. Avez-vous des conseils pour Nathan ? Alors, on parle de quel type de personnalité ? Là, on est dans l'histrionique Christophe André ?
Oui, là c'est compliqué de se lancer comme ça dans des diagnostics. Il y a certains traits, oui, il y a des traits. Le côté princesse, c'est-à-dire je veux qu'on me regarde, je veux qu'on s'occupe de moi, je veux être au centre, je veux recevoir beaucoup, beaucoup d'amour. Je ne suis pas toujours prête à en donner ou prêt à en donner. Ça ressemble, voilà, ce profil qu'on appelle histrionique. Mais les conseils, c'est toujours un peu les mêmes. C'est-à-dire, quand il y a une relation d'affection, d'amour, ça permet de faire passer beaucoup de choses à condition de le faire au bon moment, mais c'est très important, quand on le peut, d'une part de ne jamais critiquer la personne, tu es comme ci, tu es comme ça, mais de mentionner à chaque fois des comportements, de dire voilà, quand il se passe ce truc-là, et de parler de ses émotions. Ben moi, ça me fait de la peine, ça m'attriste, j'ai peur pour notre relation, quand les soirées se déroulent comme hier soir, moi, je suis tout triste et j'ai peur pour notre relation, est-ce que tu veux bien qu'on en parle ? Parce que voilà, il faut qu'un couple, c'est un truc qui se construit à deux. Si on est avec une personnalité qui a juste des traits problématiques, mais qui n'est pas une personnalité pathologique rigide, l'autre va entendre cette histoire-là. Mais c'est une relation qui demande beaucoup de diplomatie à la personnalité la moins difficile. Alors certaines en ont l'énergie, en ont le goût, en ont la capacité.
Et puis ont l'affection pour aussi, la motivation réside dans l'affection.
Et puis d'autres sont exaspérées et finissent par craquer, partir. C'est vrai que la recette la plus simple, c'est partir. S'éloigner.
Et c'est comme ça que vous les récupérez, en fait, François Lelore. Ces personnalités dites difficiles qui disent « mais je comprends pas ».
Pourquoi m'a-t-on plaqué alors que je mérite vraiment d'être aimé et admiré ?
Ouais. Alors, ce sont évidemment des traits de caractère qui sont très différents dans notre société. Celui qui revient le plus, je dirais que c'est l'anxiété, non ? François Lelore ? Est-ce qu'on est dans une société vraiment particulièrement anxieuse aujourd'hui ?
C'est-à-dire que là, il y a le contexte quand même particulier.
Doit faire le lit de...
C'est vrai, il y a l'idéal aussi de bonne santé, d'éloigner la mort, alors que finalement, les générations d'avant étaient beaucoup plus habituées à voir les gens mourir. Est-ce qu'il y a plus de personnalités anxieuses ? Je pense qu'aujourd'hui, les personnalités anxieuses sont plus soumises à l'anxiété quand même liée à l'information. C'est-à-dire que si on est anxieux et qu'on regarde le journal télévisé tous les soirs,
on s'en rajoute.
Eh bien, on s'en rajoute. Alors qu'on peut imaginer qu'il y a un siècle, quand on vivait à la campagne, bon, ben, tant qu'il n'y avait pas de guerre et d'épidémie, finalement, voilà, il y avait la maladie, mais il n'y avait pas cette espèce de bain. Là, je voyais là, les liens d'information qui s'affichent sur un écran. Il y en a un sur deux qui est anxiogène, en fait.
Oui, sur les écrans de notre studio, effectivement. L'anxiété revient pas mal hein, dans les messages que l'on reçoit. Laurent, sa compagne, c'est fou parce qu'on n'a que des couples, hein. Sa compagne est très anxieuse, nous écrit-il. Je suis fatiguée de devoir la rassurer tout le temps et surtout, j'ai l'impression que cela ne sert à rien. Elle a même peur que je la quitte à cause de ça et c'est sans fin. Alors oui, l'anxiété qui génère l'anxiété, c'est un cercle vicieux parce qu'au final, on se rend compte hein, quelque part à quel point on devient difficilement vivable et on n'a plus qu'une peur, bah, c'est d'être lâché, quoi.
Oui, dans la vie sentimentale, mais vous aviez raison de souligner la notion d'incertitude tout à l'heure, puisque beaucoup de chercheurs conceptualisent l'anxiété comme une allergie à l'incertitude. Ouais. Dès qu'il y a quelque chose d'incertain dans ma vie, je commence à m'inquiéter. Or, bah, la vie n'est qu'une succession d'incertitudes. Est-ce que mes enfants vont rentrer de l'école ce soir? Est-ce que mon conjoint m'aimera toujours demain? Est-ce que j'aurai encore mon boulot dans 8 jours? Est-ce que la planète sera toujours vivable dans un an? Et donc, quand on commence à partir sur cette prise de conscience de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui est incertain, de tout ce qui est potentiellement menaçant, d'où le rôle aggravant des informations que soulignait François, alors le cerveau se met à flamber. Et donc, c'est vrai que pour les anxieux, ce monde est sans doute plus compliqué que le monde d'hier, parce que c'est pas forcément un monde plus dangereux aujourd'hui. Autrefois, il y avait des famines, des guerres, des violences vraiment en très grand nombre, mais c'est un monde plus incertain, avec aussi notre désir de sécurité et de bonheur qui a augmenté. Et donc, c'est le grand écart entre ce dont nous rêverions et que nous pensons possible et normal et légitime, et ce que les informations nous renvoient et enflamment dans notre cerveau.
Voilà, et sans compter cette société hyper connectée où l'information arrive à nous, à l'instar de ce que vous disiez il y a un instant, François Lelor, hein, sur cet écran, dans ce studio, les infos qui viennent à vous, même si vous ne les choisissez pas, de toute façon, elles débarquent.
Sans filtre.
Sans filtre.
Alors, un espoir quand même pour les anxieux, les personnalités anxieuses, ça fait partie de celles qui souffrent, qui ont conscience de leurs troubles, oui. Et qui en général cherchent de l'aide, et il faut dire qu'avec les thérapies, parfois les médicaments, on peut vraiment les aider.
Eh bien justement Marie, elle nous a laissé un message, je vais vous le lire dans un instant. Et puis Pierre, lui, qui effectivement dit qu'il est impulsif et colérique, il est en ligne, on le remercie. J'espère qu'il n'est pas en pétard parce que je suis un peu en retard, à tout de suite.
RTL,
Flavie Flamand, jusqu'à 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Marie, je suis une personne anxieuse, je n'ai pas envie que les autres subissent mes angoisses. Donc c'est ce que vous nous expliquiez il y a un instant, hein, François Lelor. Elle n'a pas envie donc que l'on subisse ses angoisses, elle fait de son mieux pour gérer tout ça. Me dire que je suis une personnalité difficile, c'est quand même super dur à entendre. C'est vrai que ça n'est pas une appellation quand même, François Lelor, très facile pour ceux qui nous écoutent et qui se reconnaissent dans les traits de caractère.
Voilà, a priori c'est pas flatteur, mais effectivement Marie, ben, comme les personnalités anxieuses le reconnaissent volontiers.
Voilà.
Et puis
il y a des solutions. Hein.
Oui, il y a vraiment des solutions, soit des thérapies, des approches corporelles, parfois des médicaments. Parfois les gens ont besoin quand même un peu de médicaments. Et donc j'allais dire, d'ailleurs les patients anxieux, c'est comme des patients en général, c'est agréable parce qu'ils ont vraiment une forte motivation pour aller mieux.
Ce sont des bons co-thérapeutes, je dirais, quelque part.
Voilà. Hein.
Sans doute, mais voyez, c'est drôle comment Marie se vexe quand on parle de sa personnalité, alors qu'elle se vexerait moins si on parlait de ses symptômes, dire voilà, j'ai des traits anxieux, j'ai des symptômes anxieux, ça nous remet moins en question que quelqu'un qui nous dit, t'as vraiment une personnalité anxieuse, comme si on était mis dans une boîte, on était étiqueté. C'est pour ça que c'est un peu explosif, ces histoires de personnalité, bien que ça existe, c'est quand même comme ça que les choses fonctionnent.
Et c'est le lien qui est difficile.
Et ça revient à dire la manière de faire une critique, il vaut mieux dire à quelqu'un, écoute, je trouve que tu te mets un peu trop souvent en colère ou tu décides trop rapidement. Il va peut-être entendre ça, mais en revanche, si on lui dit bah, t'as vraiment une personnalité impulsive, là c'est la critique de la personne dans son ensemble et c'est plus mal reçu.
Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Flavie.
Trouve que vous vous mettez un petit peu, de temps en temps, un petit peu trop en colère ou trop facilement, Pierre. Ça passe ou pas?
Ouais,
oui, ça passe. D'accord, ok. Merci pour votre patience, Pierre. Vous avez 39 ans, vous habitez dans l'Ariège. Et alors là, c'est vous hein, qui nous avez contactés, hein, donc je ne peux pas prétendre vous connaître. Néanmoins, vous pensez être quelqu'un d'un brin compliqué peut-être et impulsif, si je puis dire. Vous vous énervez facilement?
Oui, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Je suis quelqu'un qui se met facilement en colère pour des petites choses qui, au final, sont très futiles.
Ouais. Bah, alors, qu'est-ce qui se passe, Pierre?
C'est un tout, en fait. C'est une gestion de ma... On va dire de notre condition actuelle, en fait, avec ma femme. On a des soucis financiers un peu comme tout le monde.
Ah, ouais.
Et qui font que le fait de devoir gérer tous les petits à côté du problème financier, j'arrive plus à gérer le côté relationnel, en fait.
Voilà. Donc, c'est temporaire ou est-ce que c'est votre nature profonde? Ou est-ce que vous avez le sentiment que c'est en ce moment que c'est un petit peu compliqué?
Disons que j'ai toujours été un peu impulsif. D'accord. Et colérique, mais j'arrivais à le gérer, en fait, avant. J'étais quelqu'un de très enjoué, qui aimait bien rigoler, faire la fête. Mmh. Et puis, je me suis laissé submerger par tous ces problèmes d'argent. Et,
c'est normal.
Voilà. Et le fait est que maintenant, j'aimerais bien redonner tout ça à ma femme et à mon fils. Mais j'arrive juste à donner de l'amour, de l'affection à mon fils et lui faire croire, entre guillemets, que tout va bien. Et après, pour le reste, je suis intransigeant, il n'y a rien qui passe. Voilà.
Alors, bon, déjà, vous savez, quand on va mal, est-ce qu'il faut vraiment avoir l'air d'aller toujours bien? Ça, c'est une première chose. Je ne sais pas, je vais vous laisser entre les mains tout à l'heure de nos amis psychiatres. Mais bon, c'est humain, hein, de rencontrer des difficultés encore plus en ce moment. Donc, on ne peut pas non plus jouer du cinéma. Mais néanmoins, Pierre, quand vous dites ça craque un peu dans tous les sens, ou comment est-ce que ça se traduit?
Mais c'est une colère qui monte, en fait, autour de moi.
Elle se traduit physiquement, elle se traduit dans les mots.
Elle se traduit par les mots, en fait. J'ai la température qui boue, le sang qui bouge, je crie, je parle fort.
Vous parlez mal?
Je vais pas parler mal, j'arrive à me contenir, en fait, mais je hausse le ton assez violemment, quoi. Voilà.
Vous êtes en colère, quoi.
C'est ça.
Ouais. Et vous êtes en colère contre quoi? C'est l'injustice de la situation?
L'injustice de la situation financière, mais après, ce qui me met en colère, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec ma situation, en fait. Comme j'expliquais à votre collaborateur, avant-hier, je me suis énervé à cause d'un oiseau qui faisait du bruit dans la gouttière, quoi. Voilà.
Pauvre petit Ozio, il n'avait rien demandé, celui-là.
Non, il n'avait rien demandé.
Et ça vous fait quoi quand vous vous mettez en colère? Ça vous fait du bien?
Ça me fait mal, en fait.
Ah.
Ça me fait du mal parce que je vois la réaction de ma femme, la réaction de mon fils. Et moi, au fond de moi, même si je suis énervé, en colère, je parle mal, ça me fait mal aussi, quoi. Voilà.
Mais c'est plus fort que vous en ce moment.
C'est ça, voilà. C'est plus fort que moi en ce moment. Voilà.
Bon, allez, je vais vous présenter votre meilleur copain, Christophe André. c'est difficile parce que Pierre, il nous explique que c'est plus fort que lui, quoi.
Oui, c'est souvent le cas des personnes qui ont des traits. Là, je ne sais pas si dans le cas de Pierre, il faut parler de personnalité,
non.
Parce que il nous décrit qu'il a quand même des soucis d'argent importants. Il a ce qu'on appelle un stresseur chronique. Quand quelque chose me tourmente de façon constante, régulière, comme des problèmes professionnels ou des problèmes financiers, eh bien, toutes mes capacités à ce qu'on appelle l'autocontrôle, c'est-à-dire ne pas me mettre en colère pour, comme il disait, des bêtises, le fait d'attendre dans une file d'attente, ou quelqu'un qui me contredit, ou un oiseau qui fait du bruit, qui m'empêche de dormir. Tous les humains peuvent être agacés par ça, mais quand je suis trop stressé, quand je suis à bout de nerfs, je perds ces capacités d'autocontrôle et j'explose de manière absurde. Pierre en est tout à fait conscient. Alors, dans son cas, je crois que le côté anxieux, stressé, joue un rôle aggravant majeur, oui. Même si sur le fond, comme il le reconnaît également, il sait qu'il a cette impulsivité. L'impulsivité, c'est au fond traduire instantanément en acte un ressenti, un jugement, une vision du monde. C'est-à-dire, quelqu'un m'agace, l'impulsivité, c'est de hausser le ton, de lui dire qu'il m'agace, de le bousculer un peu, voire parfois malheureusement de le cogner. Donc, ce qui est très bien dans le cas de Pierre, c'est qu'il est tout à fait lucide, tout à fait conscient, tout à fait désireux de changer également.
On va se retrouver dans un instant. Ne bougez pas, Pierre, à tout de suite.
RTL. Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Marion nous écrit, moi ça me fait toujours rire quand j'entends parler d'une personne décrite avec du caractère. C'est valorisé alors que ce sont en général des tyrans et donc un mauvais caractère. Et les gens conciliants passent pour des faibles. C'est un peu injuste, sans faire ma victime bien sûr, avec un gros smiley. Karine, j'essaie toujours de me remettre en question et de comprendre le fonctionnement des autres. Malheureusement pour moi, je me sens un peu seule. J'en ai marre de composer avec le mauvais caractère des personnes qui m'entourent. Elles ont un sacré pouvoir de nuisance. Et Pauline qui trouve que le sujet l'interpelle. Une de ses collègues est très susceptible. Il suffit qu'on lui demande si elle a bien envoyé un mail à un client juste à titre d'info, elle le prend mal, comme si on doutait d'elle. On marche sur des œufs, on n'ose rien dire. Franchement, c'est insupportable. Comment apaiser les choses? Christophe André, François Lelor, vous avez entendu Pierre. Pierre qui souffre, François, de la situation. Alors, ce qu'il y a de bien, Pierre, c'est qu'il y a déjà un premier pas, c'est que vous nous dites « je suis conscient ». Je suis conscient. Et en plus de ça, j'aimerais que ça change. J'aimerais amorcer un changement parce que ça fait souffrir mon entourage et ça me fait souffrir aussi. Donc, ça n'a aucun intérêt finalement à cette situation. Mais c'est plus fort que vous. Alors, François Lelore, le changement, est-ce qu'il peut s'opérer? Parce que Pierre, en fait, on sent que c'est lié à une situation.
Oui, c'est aggravé par une situation. Alors, je dirais du plus simple et encore au plus compliqué, on pourrait dire à Pierre déjà d'essayer de diminuer les causes de stress. Alors le Covid, il ne peut pas diminuer, les ennuis financiers difficiles pour l'instant, mais peut-être de trouver dans sa vie quand même des activités ou des moments agréables, d'essayer de préserver les moments agréables. Parce que de même que les stresseurs s'additionnent, si vous voulez, les moments de détente et de joie s'additionnent. Après, évidemment, on pourrait imaginer qu'avec un thérapeute, il essaie d'analyser le déclenchement de ses colères, qui fait un travail sur ses pensées, un travail d'acceptation. Mmh. Bah oui, les gens ne se comportent pas comme on le souhaite toujours, etc. Donc ça serait un travail, disons, à moyen ou à long terme. Qui lui servirait plus tard. Et après, enfin, je suis pas pour qu'on prenne des médicaments à tout prix, mais je pense que quand il y a comme ça des périodes de stress provisoire, dans la situation de Pierre, par exemple, un tranquillisant mineur prescrit par son médecin généraliste pourrait l'aider à faire baisser un petit peu la température de la chaudière, en quelque sorte, et ferait qu'il serait moins enclin à exposer. Donc ça, c'est à discuter avec son médecin.
En fait, c'est très douloureux, mais est-ce qu'il n'y a pas une façon d'évacuer aussi, Christophe André, ce surplus de stress? Est-ce qu'il ne faut pas se dépenser? Vous savez, moi, parfois, j'ai l'impression qu'il faut épuiser le chagrin, il faut épuiser le stress.
Oui, mais ça, on pourrait peut-être demander ça à Pierre, parce qu'il y a ce qu'on appelle, effectivement, des modérateurs de stress. C'est-à-dire qu'on sait qu'en faisant une heure d'exercice physique quotidien, qu'en adoptant un certain style de vie, on va baisser, en tout cas, l'intensité.
C'est
le problème de Pierre, c'est qu'il ne contrôle pas l'intensité de ses colères. Mais si la colère est moins forte parce qu'il vient de faire une heure de footing, peut-être qu'il pourra alors utiliser des petites stratégies qu'on conseille aussi souvent aux personnes colériques, c'est leur dire « Donnez-vous le droit d'être en colère, mais prenez d'abord 5 minutes pour aller faire un tour dehors
c'est
en respirant. »
Ça
paraît idiot, hein, mais vous savez ce qui se passe quand on fait ça? On désamorce nos circuits cérébraux de la colère. Plus je me mets en colère, plus je deviens un champion de colère. Plus je freine la colère en me disant « D'accord, tu vas gueuler, mais dans 5 minutes, sors, marche, respire et reviens gueuler dans 5 minutes. » Plus je casse ces automatismes.
C'est un truc super qu'on peut faire avec les enfants, ça.
Aussi.
Voilà, et qui, enfin, je pense qu'il fonctionne plutôt pas mal. Merci beaucoup, Pierre, de nous avoir appelés. Prenez soin de vous, hein,
merci,
surtout.
Merci,
d'accord.
Merci
à vous. Ce qui est intéressant, là, à travers le témoignage de Pierre, c'est qu'on sent que lui peut amorcer un changement. François Lelore, est-ce que les personnalités dites difficiles qui sont dans votre ouvrage peuvent amorcer véritablement ce changement, ou est-ce qu'on peut se dire, bon, bah voilà, de toute façon, il faut les prendre comme elles sont et les accompagner. Après, on laissera nos auditeurs découvrir tout le reste dans votre livre.
Mais non, mais comme disait Christophe, certaines ont quand même conscience qu'elles ont une personnalité difficile et oui, sont. Alors, toutes ne sont pas prêtes à essayer vraiment de changer, mais oui, il y a de l'espoir. Et puis parfois, la vie aussi...
On espère quand même.
La vie aide. Et parfois, il y a des environnements qui vous aident et puis des environnements, au contraire, qui vous plombent.
C'est vrai.
Alors, certaines auront peut-être la chance de rencontrer des environnements dans lesquels leur trait de personnalité sera modéré ou en tout cas sera moins gênant. Après tout, parce que ce qu'on dit aussi dans le livre, c'est que certains traits de personnalité sont utiles aussi. Moi, je préfère monter dans un avion qui a été construit par des obsessionnels anxieux.
C'est vrai, il y a du positif aussi, hein, à travers ces traits de personnalité. Ça n'est pas que difficile, hein, surtout Christophe André.
Non, et puis c'est comme la vie, il y a des trucs extraordinaires, puis il y a des choses qui nous agacent énormément. Les êtres humains, ça fonctionne un peu sur ce registre.
Bon, en tout cas, c'est très intéressant, c'est très riche, hein, comme toutes ces personnalités. Merci à vous. On retrouve ce livre, Les nouvelles personnalités difficiles, comment les comprendre, les accepter et les gérer, aux éditions Odile Jacob. Christophe André, François Lelore, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Et à bientôt sur l'antenne d'RTL. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 14h30 comme d'hab, quoi. Et puis surtout, prenez soin de vous d'ici là. Je vous embrasse.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.